بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères et sœurs, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité donc de nous réunir pour ce dernier programme de préparation spirituelle pour, Inch'Allah, entamer correctement ce mois béni de Ramadan. Mois de Ramadan qui commence ce soir pour Mecca, Medina et beaucoup de pays arabes et pour beaucoup de pays en Europe, entre autres la France métropolitaine qui commence le Ramadan ce soir, Inch'Allah, et pour nous ce sera, à La Réunion, ce sera demain soir. Qu'Allah Rabbul Izzah accepte les majalis, les assemblées qu'on a eu l'occasion de faire. On a essayé de vous proposer des programmes de, on va dire, de ta'awun ala al-birri wa taqwa, d'entraide mutuelle vers le bien, ce qui nous a permis à nous tous de relire un peu les textes concernant le mois béni de Ramadan, de se rappeler des bienfaits et de se fixer des objectifs et de comprendre que le but n'est pas de foncer vers des actes d'adoration, mais de les aborder de façon intelligente et de rechercher des choses qui sont beaucoup plus subtiles que la simple, entre guillemets, accomplissement, le simple accomplissement de la bonne action. Nous recherchons la piété, nous recherchons la sincérité, nous recherchons l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, la soumission aux ordres d'Allah, l'espoir de rétribution, le muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah, tous ces amalul quloub, ces actions intérieures qui se trouvent, qui doivent se trouver au plus profond de notre cœur. C'est ce que nous devons essayer de développer à travers chaque bonne action du mois béni de Ramadan, et qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la possibilité de jeûner cette année, Inch'Allah, un jeûne différent, un jeûne beaucoup plus présent, un jeûne beaucoup plus, on va dire, avec beaucoup plus d'implication du cœur, beaucoup plus de spiritualité, beaucoup plus de concentration, qu'on arrive à donner un sens. Et si j'arrive à donner un sens à mon jeûne, je vais trouver, Inch'Allah, la douceur de la foi, halawatul iman. Ikhwan et akhawati fillah, avant d'entrer dans le vif du sujet, on a parlé de taqwa. La taqwa ne trouvera sa place dans notre cœur qu'à partir du moment où il y aura trois choses. L'accomplissement des bonnes actions avec dévotion, sincérité et sacrifice. L'éloignement des péchés, parce qu'on ne peut pas avancer et reculer en même temps. Si je fais trois pas en avant et trois pas en arrière, en finalité, je n'ai pas avancé. Donc, si je passe ma nuit en qiyamul layl, en lecture du Coran, en décollant du'a, et que le matin je retourne vers mes mauvaises habitudes, j'ai changé mon approche des bonnes actions en augmentant de façon considérable le quota de bonnes actions, mais je n'ai rien changé dans mon rapport avec le haram. Ça, c'est tout à fait, c'est contre-productif et on n'atteindra jamais, mais jamais, la taqwa, la piété, si je maintiens mes péchés tout en accomplissant, mashallah, quantité de bonnes actions. Donc on a besoin d'efforts sincères avec l'esprit de sacrifice, on a besoin de l'abandon total, l'éloignement des péchés, et on a besoin également de al-ilm shar'i, de la connaissance religieuse. Ikhwan et akhawati fillah, on ne peut pas comprendre les subtilités des bonnes actions, les a'malul quloub, les actions intérieures qu'on a citées. On ne peut pas comprendre la grandeur d'Allah, on ne peut pas ressentir les bonnes œuvres et essayer de goûter à la douceur de la foi sans qu'il y ait en amont al-ilm shar'i, la connaissance religieuse. Faisons l'intention durant ce mois béni de Ramadan, un jour un verset du Coran. Chaque jour, je me dois de comprendre un verset du Coran. Mais quand je dis de le comprendre, c'est pas juste de passer de façon superficielle en lisant la traduction. Non, c'est vraiment creuser, aller au plus profond en ouvrant ou alors en essayant de comprendre par l'intermédiaire des livres de tafsir quel est le sens de ce verset pour que nous arrivions à nous en imprégné, que dans mon cœur ce verset il trouve sa place et que c'est un puzzle, une pièce que je rajoute à ma construction spirituelle, à ce pont, on va dire, à cette construction que j'essaie de faire vers mon Seigneur. Ikhwan et akhawati fillah, bien inconscient la personne qui pense pouvoir se rapprocher d'Allah uniquement avec les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres doivent être construites sur des bases solides. Et ces bases solides, c'est forcément et obligatoirement la parole d'Allah, Azza wa Jal. Donc c'est un point essentiel. Si nous voulons que le Ramadan de cette année soit différent, soit beaucoup plus profitable, il faut que nous parvenions à nous connecter avec la connaissance religieuse. Et c'est ce qu'on va essayer de faire passer comme message avec un public plus large. Chaque personne dans sa ville, dans son quartier, dans sa région, doit avoir son imam référent. Une personne à qui elle peut poser les questions de fiqh, de jurisprudence concernant le somme, mais également une personne qui va l'accompagner durant tout le mois béni, qui lui permettra d'apprendre. Et c'est pas une fois par semaine, c'est pas les programmes du dimanche. On a une tradition à La Réunion, et c'est une bonne chose, on fait des programmes le dimanche, c'est assez long, ça réunit du monde. Mais je veux dire qu'on a besoin de connaissances religieuses, kullayom. Chaque jour, je dois me renforcer spirituellement par la connaissance religieuse. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour que nous essayions, inshallah, de bien jeûner cette année et de profiter spirituellement de chaque action du Ramadan. Quelles sont les actions justement que nous devons essayer de bien comprendre dès le début, dès les premiers instants du jeûne? Nous avons As-Suhur. Ce sont les trois thèmes que nous allons aborder, Inch'Allah. Comment prendre le repas du matin correctement en suivant la sunna? Deuxièmement, comment rompre le jeûne en suivant la sunna? Et troisièmement, de la salatu tarawih, de la prière de tarawih. On va dire trois actions concrètes qu'on a besoin de comprendre afin de les mettre en application correctement. Premièrement, concernant le repas du matin, alors qu'on appelle suhoor ou qu'on appelle sehri à La Réunion traditionnellement, ce n'est pas le plus important. Ce que nous retenons, c'est lorsque le prophète alayhi salat wa salam nous explique que le suhoor, ce repas du matin, est quelque chose de spécifique à sa communauté, à sa umma. Ça veut dire que « Kama kutiba ala alladhina min qablikum » le jeûne nous était prescrit, comme il était prescrit à ceux qui étaient venus avant nous, certes, mais les communautés d'avant, les Yahoud et les Nasara, n'avaient pas le repas du matin, le suhoor. Le prophète alayhi salat wa salam nous rappelle que la différence ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitabi, la différence entre notre jeûne à nous et le jeûne des gens du livre, on sait ce qu'est les gens du livre, c'est le repas du matin. Parmi les différences, c'est le repas du matin, le suhoor. Et le hadith est rapporté par Muslim, il est donc authentique. Donc là, déjà, on comprend que c'est une spécificité de cette umma. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'Allah nous a accordé. Et quand Allah accorde quelque chose de particulier à cette communauté, c'est que cette chose-là, elle est vraiment importante et elle va distinguer cette communauté dans cette action. Nous avons des fois une approche, on va dire, un peu trop traditionnelle du repas du matin, et on se dit parfois que ce n'est qu'un petit déjeuner que j'ai pris 2 heures ou 3 heures avant mon petit déj de 6h30 du matin ou de 7h du matin. Alors que, ikhwan et khawati fillah, à la lumière du hadith, sachant qu'Allah a légiféré le suhoor, ça veut bien dire que le repas du matin est un ibada, est une bonne action. Je répète, le repas du matin, le suhoor, n'est pas uniquement un repas, un petit déjeuner qu'on prend à l'avance. Le repas du matin est avant tout une ibada, un acte d'adoration. Et au-delà de l'acte d'adoration, c'est une source de bénédiction et c'est un moyen d'obtenir les du'as et le istighfar des malaïkas. Alors uniquement pour ça, ça doit créer en nous l'envie, la motivation d'être présent durant le repas du matin. Alors avant de voir ces différents points, j'élimine déjà et je déconstruis les approches qui sont un peu trop traditionnelles ou qui ne tiennent pas la route. Il y a des personnes qui ne veulent pas prendre le repas du matin parce que justement c'est trop tôt et je n'arrive pas à me réveiller si tôt. Ikhwan et akhawati fillah, n'est-ce pas le moment par excellence, le mois de Ramadan, pour se réveiller tôt? Parce que se réveiller tôt, ça implique un mujahada, un sacrifice. Et Allah aime le croyant qui fait un sacrifice pour lui. Et lorsque je fais un pas vers mon Seigneur, Allah fait 2 pas vers moi. Hadith qu'on a eu l'occasion de citer, de développer. Je me réveille à 3h30, à 3h45 du matin. Allah Rabbul Izza voit mon sacrifice. Et le fait d'être réveillé aussitôt, on a grand espoir que par ce sacrifice, Allah Azza wa Jal me donne la possibilité d'accomplir de très belles choses durant cette journée de jeûne. Donc ça commence par le sacrifice de se réveiller tôt. Les savants disent également, le fait de se réveiller tôt, ben ça te permet d'être présent dans le dernier tiers de la nuit, c'est-à-dire le moment le plus important, là où les doigts sont acceptés, les doigts sont exaucés. Être réveillé très tôt le matin, ça te permet de faire le qiyamul layl. Et c'est, subhanallah, par excellence le mois où nous ne pouvons nous permettre de rater le moindre tahajjud. Le moindre jour ne peut pas laisser passer sans accomplir le qiyamul layl. Tout ça n'est possible qu'à partir du moment où je me réveille pour le suhur, pour la prière du matin. Le repas du matin. Deuxième approche totalement erronée, il y a des personnes qui disent que je ne prends pas le repas du matin parce que je suis nauséeux. À moins d'attendre un enfant, à moins d'être enceinte, ce qui n'est pas souvent le cas de nos frères, on ne peut pas intégrer le fait qu'une personne dise que le matin j'ai mal au cœur, je ne peux pas manger. Alors il faut bien intégrer quelque chose. Et ça, allez, on fait le lien avec un hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a demandé à propos du suhur, fala tada'uhu, ne le délaissez pas, même s'il faut boire ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Symboliquement, être réveillé, manger une date ou boire un verre d'eau, c'est amplement suffisant. Il n'a jamais été dit que le repas, le suhur du matin, doit être obligatoirement un festin. Alors, permettez-moi une parenthèse pour les anciens, j'espère que de cette génération, on n'a plus à La Réunion. Ces anciens qui exigeaient que le matin, la maman se réveillait pour faire le fameux de riz kalikichli avec papa, ça, il faut arrêter complètement ça. De laisser nos mères 45 minutes ou une heure de temps debout dans la cuisine dans le dernier tiers de la nuit où les doigts sont acceptés. D'accord ? Et je pense que dans toutes les traditions, il y a chacun son délire. D'accord ? Donc le repas du matin, alors là c'est conseil pratique, mais c'est pas à moi de le dire, faisons en sorte que le repas que nous allons consommer, Wallahu a'lam, peut être prêt la veille. Excusez-moi, je vous donne des exemples. Hein. Si je vois que mon ami Irfan est en ligne, Uhibbuka fillah, et je sais qu'Irfan a l'habitude de tampon, hein, celui de tampon, il a l'habitude de manger 12 crêpes tous les matins. Alors imagine le temps que tu vas prendre pour faire tes 12 crêpes et combien d'unités de prière tahajjud tu peux faire pendant ces 20, 30, 40 minutes. Prépare-les la veille. Mets-les au frigidaire le matin, tu chauffes au micro-ondes. C'est-à-dire qu'il faut se faciliter les choses. Le repas du matin ne doit pas être une montagne, un festin à ingurgiter, ni même nécessiter une grande préparation. Ça doit être des choses plus ou moins faciles, qu'il soit déjà prêt à table, couvert avec une nappe et ainsi de suite, et que le matin, mashallah, on consacre le maximum de temps au tahajjud, au dua, au istighfar, et éventuellement, à la lecture du Coran, si on a, mashallah, beaucoup de temps. Mais la lecture du Coran, on peut la laisser, mashallah, pour le reste de la journée. Alors que les a'mal spécifiques du dernier tiers de la nuit doivent être qiyamul layl, la prière de la nuit, istighfar, la demande de pardon, les du'as, de façon générale, les invocations, ce qui nous est important, fi dunya wal akhirah. Donc, je reviens à cette deuxième, deuxième avis concernant les gens qui ne veulent pas prendre le repas du matin parce qu'ils ont la nausée. Le prophète m'a parlé d'une gorgée d'eau où on peut manger une date. C'est-à-dire quelque chose de très simple, mais symboliquement, il faut consommer quelque chose parce que c'est la sunna de Mohammed alayhi salat wa salam. Si on n'a pas envie de manger, je le fais quand même. Je dis que je suis en train de faire, on appelle ça at-ta'assi bin nabi alayhi salat wa salam. Je suis les pas de mon al-habib alayhi salat wa salam. D'accord. Et puis troisième, alors là franchement ça c'est d'un revers de main facilement, et je pense à mon très cher ami Suleyman qui est en ligne. Certains vont dire que le matin, le suhur, je ne mange pas parce que je veux faire un régime. Ça n'a strictement aucun sens. Et regardez juste ce que vous consommez pour la rupture du jeûne et vous comprenez que ce que vous mangez en termes de lipides, je parle pour moi en premier, hein, en un mois, Mashallah, c'est plus que ce que vous ne consommez en 11 mois. Donc, on oublie un peu tout ça. On trouve le repas qui nous est, qui est adapté, qui est facile, qui ne demande pas, qui ne consomme pas du temps du dernier tiers de la nuit. Et on répond présent parce que nous savons que c'est une cadeau, un cadeau, j'ai dit une spécificité de cette umma, un cadeau qu'Allah a accordé à cette umma que les autres n'avaient pas, d'accord, le suhur. Et deuxièmement, ça peut être un peu d'eau, quelque chose de très rapide. Alors maintenant, concernant les vertus, on avait parlé de moments de bénédiction. Par exemple, dit que tasaharu fa inna fi suhuri baraka. La baraka, on a eu l'occasion d'en parler, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter, on ne peut pas énumérer, on ne peut pas comprendre. La baraka, c'est la frontière entre le monde de l'invisible qui rentre comme une comète, comme une météorite qui entre dans à la surface de la Terre. C'est quelque chose qui vient de là-haut et qui pénètre notre monde et qui nous apporte un sentiment de plénitude, de bonheur, de sakina, de raha, qu'Allah seul, Allah, qui ne peut provenir que d'Allah. La baraka, on a eu l'occasion de parler, la baraka, c'est dans ta vie, c'est dans ta journée, c'est dans tes revenus, c'est dans tes relations avec ton épouse, avec tes enfants, c'est ainsi de suite. La baraka, c'est quelque chose qui est large et très généreux. Et quand on prend, on mange, on demande, on lit ce doua, bismillahi wa ala, ou bismillahi wa barakatillah. On demande à Allah de nous accorder la baraka. C'est ce que le croyant veut dans toute bonne chose, dans toute chose qu'il accomplit. Donc, tasaharu fa inna fi suhuri baraka, prenez le repas du matin, je ne vais pas traduire, car il y a dans le repas du matin une bénédiction. Le hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Ikhwani akhawati fillah, je tiens à ouvrir cette parenthèse une fois de plus. Dans notre din, nous devons absolument vérifier les sources. En ce moment, là ça commence, là, le Ramadan a commencé en métropole et sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp, il y a des groupes qui sont créés, il y a des messages qui circulent, il y a des messages de félicitations, des doigts, c'est très bien tout ça. Mais il y a également beaucoup de diffusion de hadiths, de points sur la religion, c'est très bien, mais faisons en sorte que tout ce que nous diffusons, on doit être absolument sûr que c'est authentique. Et c'est l'approche des pieux prédécesseurs de toujours aller à la source, d'accord? Le but n'est pas d'entendre une parole qui est extraordinaire, qui va me faire rêver, qui va changer ma vie. Non, le but c'est que ce que j'écoute, ce que j'apprends soit authentique. Parenthèse fermée. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Parmi les commentaires, on a Ibn Hajar. J'ai un doute si c'est Ibn Hajar al-Asqalani ou Ibn Rajab al-Hanbali. Dans les deux cas, ce sont de grands savants. Là, on parle de commentaires. Mais il me semble que c'est Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, celui qui a commenté Sahih al-Bukhari. Il explique qu'est-ce que cette baraka dans le repas du matin. Il dit que premièrement, il a résumé en 5 points. Pourquoi il y a une baraka? Parce que c'est source de récompense. C'est une sunnah. La mise en application d'une sunna est source de récompense et ça nous apporte la bénédiction. Suivre le modèle prophétique est source de bénédiction. Et c'est suivre les pas d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, c'est-à-dire la voie des pieux prédécesseurs. Deuxièmement, At-taqawwi lil-yawmi. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dit que celui qui prend le repas du matin, il va se renforcer physiquement. Là, on est vraiment dans une question de nutrition, mais c'est pas uniquement le nombre de calories, parce que vous pouvez parfois manger une quantité de choses et c'est pas une question non plus d'avoir faim, de ne pas avoir faim. Comme j'ai dit, il y a des gens qui à 8h30, ils sont réglés, ils ont déjà faim, d'accord ? Awa ana minhum. Non, c'est pas une question d'avoir faim, non, c'est que ce repas du matin te donne une baraka de ton corps, ça te permet de tenir la journée, de t'acquitter de tes engagements, de tes responsabilités. Si je suis serrurier, si je suis commerçant, restaurateur, professeur, quel que soit mon engagement, je pourrais, Inch'Allah, faire ce que je fais tout le temps, sans que le jeûne ne soit, on va dire, un frein ou ne diminue mes capacités, mon potentiel. C'est ce que Ibn Hajar veut dire. Par le suhur, Allah te donne la baraka de ta santé, de ton corps, dans ton énergie, que tu pourras accomplir, tu pourras mener à bien ta mission au sein de la société. Troisièmement, ça c'est at-taqawwi lil-yawm, c'est-à-dire par rapport à ton engagement de dunya. Troisièmement, Ibn Hajar dit at-taqawwi 'ala al-ibada. par le suhur, Allah te donnera la force d'accomplir les bonnes actions. Que tu ne seras pas épuisé, fatigué, j'ai jeûné, j'ai trop mal à la tête, je ne peux pas lire le Coran. Non, le suhur te permettra de trouver cette force pour accomplir les bonnes actions. Ça fait trois. Quatrièmement, quatrièmement, c'est un point qu'on a dit en introduction, ça te permet d'être réveillé à un moment où les doigts sont acceptés. Cinquièmement, mudafa'atu su'il akhlaq, le repas du matin te permettra, selon Ibn Hajar, de trouver une certaine tranquillité, un apaisement de ton cœur qui t'évitera d'avoir un mauvais comportement durant cette journée. Parmi les mauvais comportements, c'est la colère. Selon Ibn Hajar, ce repas du matin est source de bénédiction, comme le prophète l'a dit, et parmi les manifestations de cette bénédiction, c'est que durant cette journée, tu auras le meilleur des comportements. Tu ne vas pas t'énerver, tu ne vas pas avoir des propos déplacés, ainsi de suite. Ça te permettra d'avoir le husnul khuluq, le bon comportement. Voilà donc cinq explications d'Ibn Hajar al-Asqalani concernant ce hadith. Prenez le repas du matin, car le repas du matin est source de récompense. Point suivant concernant le suhur. Dans certaines versions, il y a ce dua, Allahumma inni asumu ghadan lak. Oh Allah, en ce jour, je m'engage à jeûner. Savants disent que lorsque tu dis Allahumma inni asumu, c'est un engagement que tu fais avec ton Seigneur. Et lorsque tu lis ce dua, lorsqu'on fait le niya, c'est le niya, d'accord? Lorsque je le fais, essayons d'intégrer cette notion d'engagement. Parce que si je me dis que je suis en train de converser avec mon Seigneur, je suis en train de dire, Ya Allah, je te promets qu'aujourd'hui, lundi, je vais jeûner pour toi, Ya Rab. Je dois être capable de ressentir ces propos et cette promesse et cette conversation que j'ai avec mon Seigneur et avoir la conviction qu'Allah m'écoute et m'entend. Et donc, tout au long de la journée, quand j'ai faim, j'ai soif et ainsi de suite, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on va vivre et j'allais dire subir, tout ce qu'on va vivre comme situation, on va dire, un petit peu inconfortable, je me dis que c'est pas grave, j'ai promis à Allah que je vais le faire. C'est-à-dire que cela, ça te permet d'une certaine façon de faire le lien entre l'engagement, la promesse du matin et les situations, on peut même dire de tentation, qu'on a envie de manger, enfin c'est bête de dire ça, qu'on a envie de manger, on a envie de boire ou alors, et ainsi de suite, quand on voit les gens en train de manger et tout, on se dit que non, ben ça ne me fait strictement rien parce que moi j'ai un engagement avec mon Seigneur et ça permet de cultiver cette notion de promesse et d'engagement et de fidélité de ces promesses envers Allah avec espoir qu'on puisse garder cet état d'esprit durant toute l'année pour toutes les bonnes actions. Naam, hada. Et justement, si on complète ce doua, Allahumma inni asumu ghadan lak, tu fais la promesse à ton Seigneur et tu demandes à Allah Azza wa Jal quelque chose. C'est-à-dire que tu demandes une rétribution. Moi, je vais faire ce sacrifice à Allah. Oh Allah, je t'en supplie, accorde-moi ça. Qu'est-ce qu'on demande? Farfid lima qaddamtuma wa ma akhartu. On demande à Allah de nous pardonner l'intégralité, les péchés qu'on a accomplis avant, les péchés qu'on a accomplis maintenant et ceux qui vont venir. On demande à Allah Rabbul Izzah un pardon total de nos péchés. Et c'est ce raja, cet espoir qui doit animer le cœur du jeûneur. Je jeûne, j'ai grand espoir que par cette journée de jeûne, Allah efface définitivement les péchés que j'ai pu cumuler durant. C'est pas depuis hier ou avant-hier ou depuis Ramadan de l'année dernière, c'est durant toute ma jeunesse. Le moindre péché, les écarts de comportement, même les pires des péchés durant ma jeunesse, j'ai espoir qu'Allah Azza wa Jal les pardonne par le jeûne de cette journée parce que c'est ce que je demande le matin. Donc il y a deux choses dans ce doua, la promesse et l'engagement, et ressentir cette promesse qu'on fait à Allah Azza wa Jal et ce qu'on demande, être conscient que je suis en train de demander à mon Seigneur le pardon total de mes péchés et donc garder en tête ce doua et avoir cet espoir de qu'Allah Rabbul Izzah pardonne nos péchés. Hadith suivant. Le prophète alayhi salat wa salam nous a rappelé que as-suhur kulluha baraka. Sachez aux musulmans que le suhoor, le repas du matin, est source de bénédiction. Ça, ça rejoint ce qu'on a dit. Et c'est là que le prophète alayhi salat wa sallam nous a demandé fala tada'uhu, ne l'abandonnez pas, ne délaissez pas cette bonne action, même s'il faut boire ne serait-ce que un peu d'eau. Donc on comprend que on ne peut pas se permettre de rater ce moment qui est extrêmement important, le moment où on fait l'intention, où on démarre cet engagement avec notre Seigneur et on suit la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Dernier hadith, il y en a d'autres mais on va se limiter à trois hadiths, c'est ce qu'on avait prévu, trois textes, trois nusus, et c'est celui que je préfère et celui qui est vraiment source de motivation, qui n'est pas facile à vivre ou alors à intégrer, parce que ça nous demande un effort qui implique une grande conviction sur le monde de l'invisible. Mais on doit essayer de l'intégrer, de le visualiser, c'est ce que je voulais dire, de le visualiser. Le prophète alayhi salatu wa salam nous demande « Tasaharu, fa inna Allah yuhibbul mutasahirin » « Oh musulmans, prenez le repas du matin » Premièrement, car Allah Azza wa Jal aime, fa inna Allah yuhibbu al-mutasahhirin, Allah aime ceux qui prennent le repas du matin. Donc, quand nos chers frères et sœurs de Paris, de Lyon et de d'autres régions de métropole vont jeûner, ils vont prendre le premier repas du suhoor demain, ils vont se dire que l'action que je suis en train d'accomplir, waouh, c'est une action qui est aimée par Allah. C'est-à-dire que là, quand je me réveille, et là, je pense à notre frère Abdul Malik, qui a un appétit qui est connu de toute la région lyonnaise, quand il va se préparer son bol de céréales, ou ses crêpes, ou ses muffins, ou peu importe comment, ce que vous mangez, il y a le côté, voilà, quoi, on a envie de manger, on a besoin de prendre des forces parce qu'on a une longue journée. Mais arrête-toi une seconde et dis-toi que, subhanallah, je suis en train de me mettre dans une situation où Allah est satisfait de moi. Allah m'aime. Allah aime ses croyants qui se réveillent pour apprendre le suhoor. Donc, je dois le faire avec motivation. Quand le matin, à 4h ou je ne sais pas quelle heure, je me réveille et que voilà, on traîne un peu des pieds, ce n'est pas évident. Je dis que non, mais là, mashallah, je me réveille et Allah va être satisfait de moi. C'est peut-être la seule fois de ma journée où Allah est vraiment satisfait de moi. Donc, je le fais avec cœur. Première notion. Deuxièmement, c'est la suite de ce hadith. Wal malaikatu tusalli ala al-mutasahhirin wa tastaghfiru lahum. Il y a deux notions dedans. Et les anges envoient leur salutation, c'est-à-dire ils font doua pour les personnes qui prennent le repas du matin et ils demandent pardon pour eux. Ça doit être également une source de motivation, c'est de savoir que à cet instant, à cet instant, les malaïka demandent pardon à Allah pour mes péchés. Subhanallah, le nombre de péchés que j'ai accomplis et que je m'efforce, pour lesquels je m'efforce de demander tauba, là il y a des créatures de lumière qui vont demander tauba à Allah pour moi. Dans le mois de Ramadan, dans le dernier tiers de la nuit, des créatures qui sont parfaites, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun, et qui demandent pardon pour Ibrahim, pour Ishaq, pour Abdallah, et ainsi de suite. C'est un grand honneur de recevoir, de un, la demande de pardon des anges, et d'obtenir les doigts, les anges qui demandent à Allah, qui invoquent Allah pour nous. Donc c'est vraiment un moment qu'on doit vivre de façon intense, et dans ces instants-là, je dois comprendre que là, je suis réveillé et j'obtiens le pardon, la demande de pardon des anges, les doigts, les invocations générales des anges pour moi, et Allah est satisfait de moi. À cet instant, je fais revivre la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam et je cumule quantité de baraka dès le matin. Et on avait vu dans les hadiths d'introduction du mois de Ramadan que c'est un mois de bénédiction et les savants disent que cette bénédiction elle commence depuis le repas du matin. Voilà concernant le suhoor. Après, on ne va pas rentrer dans les masa'il fiqhiyya, c'est pas de nos habitudes, sauf s'il y a des questions précises, ça on y répond de façon individuelle, mais je veux dire, toutes les questions concernant les heures, j'ai pas fait exprès, je croyais que, et ainsi de suite, ça en privé, éventuellement, vous pouvez l'écrire ou envoyer par, via l'onglet de messagerie, ainsi de suite. Bon, ça c'était la première action. Permettez-moi, enfin, chacun sait ce qu'il a à demander comme doua. On reviendra à la notion de doua à la rupture du jeûne. Parce que ce qu'on demande le matin, c'est ce qu'on doit demander également pour la rupture du jeûne. La journée démarre avec l'acceptation des doua et elle se termine, on verra dans un instant par l'iftar, l'acceptation des doua. On va un peu plus vite, on en est à 30 minutes. Deuxième action importante, le iftar, la rupture du jeûne. Là aussi, la rupture du jeûne ne doit pas être un simple dîner. Ça ne doit pas être non plus, on va dire, un moment où c'est un moment uniquement, ça doit pas être un moment gourmand uniquement, même si, il n'y a aucun péché à être, à se faire plaisir. D'ailleurs, le prophète, alayhi salat wa salam, nous a rappelé, ça fait pas partie des trois hadiths, on se limite toujours à trois hadiths par thématique, ça fait pas partie des trois, mais le prophète salam dit que le jeûneur a deux grands moments de bonheur, deux moments qui lui apportent beaucoup de satisfaction. Il y a un, c'est ça se passe dans ce monde, et l'autre, c'est dans l'au-delà. Ce qui se passe dans ce monde, c'est au moment de rompre le jeûne, ce qui nous permet de comprendre l'approche humaine du dîn, de la religion. Notre prophète ne nous a pas demandé d'être des personnes totalement spirituelles et que à la rupture du jeûne, on mange qu'une date et un peu d'eau et puis on retourne, on fait des ribadas. Non, on a le droit de manger et il est normal d'apprécier ce moment, d'être content qu'on va prendre un bon repas. Donc il faut se faire plaisir, mashallah. Ça fait partie des barakas de ce mois, de se faire plaisir, alhamdulillah. Donc ça fait partie donc des plaisirs licites. Et l'autre moment de joie, de bonheur du jeûneur, c'est lorsqu'il retrouvera son Seigneur, car le jour de Qiyama, Allah va rétribuer le jeûneur comme lui seul peut le faire. Et ça, c'est un hadith qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder, que le jeûne est la seule action pour laquelle Allah a pris l'engagement de rétribuer personnellement le jeûneur le jour de Qiyama. D'accord, donc c'est l'autre moment de bonheur ultime, on va dire, c'est dans l'au-delà, lorsque nous rencontrons Allah Azza wa Jal et que nous retrouvons les récompenses qu'il a réservées aux personnes qui ont jeûné correctement. Allahumma ja'alna minhum. Ikhwan et khawati fillah, il y a un hadith qui nous interpelle au moment de la rupture du jeûne. Le prophète alayhi salat wa salam dit inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun ma turad. Le jeûneur, c'est-à-dire chaque jeûneur a au moment de rompre son jeûne une invocation qui n'est pas rejetée. Le hadith est rapporté par Ibn Majah. Ça veut dire que, mashallah, au moment de rompre le jeûne, c'est par excellence l'instant où il faut demander le maximum de doua. Parce que c'est le moment de, on appelle ça le moment de al-jaza, de rétribution. Après une journée de jeûne, on obtient notre récompense, on va dire, la récompense journalière. Et une de ces récompenses, au-delà des bonnes actions qu'Allah seul sait, hein, qu'est-ce qu'il nous accorde avec cette journée de jeûne, il y a l'acceptation des doigts, et entre autres, un doigt assurément, qui sera exaucé, accepté par Allah Azza wa Jal. Donc, je me concentre. Je cite un deuxième hadith de At-Tirmidhi, et puis on développe cette thématique. Thalathatun la turaddu da'watun. Il y a trois catégories de personnes dont les invocations ne sont pas rejetées par Allah. Et parmi ces trois, il y a as-sa'imu, celui qui jeûne au moment où il va rompre le jeûne, hadith de Tirmidhi. Donc, à cet instant, je me concentre dans les invocations. Alors, idéalement, par exemple, je regarde pour la réunion, la rupture du jeûne. Nous, on démarre le jeûne, mashallah, à 5h14 le matin. Et la rupture du jeûne a lieu à 18h12. 18h, c'est une belle journée. 18h12, comment je prépare cet instant? Il faut compter un minimum de 15 minutes d'invocation. Si c'est 18h12, la rupture du jeûne, j'essaie d'être sur mon tapis de prière à 18h ou à 17h55 idéalement. Et on commence nos doigts, nos invocations par As-salatu ala nabi, ce qu'on appelle le Durud Sharif, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad, les invocations que nous connaissons. Nous invoquons Allah Azza wa Jal par ses noms, par ses attributs. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahimin. Et par des invocations qui sont beaucoup plus globales, si on les connaît en arabe ou alors en français, nous t'invoquons par tes noms sublimes, nasaluka biasma et kalhusna wa sifati kal'ula. Et c'est là que nous devons demander le maximum de doua. Les savants disent, demandez doua li dinikum wa li dunyakum, pour votre din, mais également pour votre dunya. Pour votre dunya, ce qui est le plus simple, pour votre famille, pour votre couple, pour vos enfants, pour votre travail, pour, mashallah, la santé, ainsi de suite. Et c'est le moment également, chaque suhoor et chaque rupture du jeûne, de demander à Allah d'accorder la shifa, la santé, à toutes les personnes qui sont malades du Covid et d'autres maladies, et qu'Allah envoie la guérison et délivre la umma totalement de cette maladie. Si chaque croyant fait ce doua, suhoor et rupture du jeûne, subhanallah, ce doua, il est beaucoup plus puissant, sans le moindre doute, que le Pfizer, que le Johnson et que le Sputnik ou autre chose. Wallah, c'est presque irrespectueux de dire ce que je viens de dire, mais tous ces asbabs que les êtres humains ont apportés ne sont rien si Allah décide d'envoyer al-shifa, la santé, et al-afiyah sur la umma. Soyons de ceux qui demandent la protection et la santé pour l'ensemble de la umma. Et parmi les douas que nous devons maintenant demander pour notre dîn, c'est, et ça des fois on oublie, hein, on doit le demander à chaque instant, al-mautu al-iman, de mourir avec la foi, de mourir sur une husnul khatima, une bonne mort, c'est-à-dire de l'accomplissement de bonnes actions, sans que tu n'aies de salat raté, ou de jeûne que tu n'as pas remplacé, ou de zakat, ou de vœux que tu devais faire et que tu n'as pas fait, sans que tu ne doives de l'argent à quiconque. Tout ça fait partie du husnul khatima. Je ne vais pas ouvrir de parenthèse parce qu'on est à 36 minutes. J'ai lu un article d'un cheikh récemment, c'était très bien fait. Il dit que beaucoup de gens parlent de husnul khatima en pensant que c'est, par exemple, celui qui meurt à la masjid, c'est husnul khatima, c'est le meilleur, c'est le champion, ainsi de suite. Certes, vaut mieux mourir dans la masjid que mourir à Carrefour ou à Cora. Ça, c'est clair. C'est bien. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort à la masjid ou quelqu'un était en Umrah, il est décédé à Mecca, que voilà, il ira dans le Firdaus, l'A'la min al-Jannah. Ce n'est pas que ça. Imaginez que quelqu'un meurt en faisant le tawaf, mashallah, la maja'alna minhum, mais qu'il doive des sommes et des sommes à différentes personnes et qu'il a été injuste de le partage de l'héritage, qu'il ait fait du tort et ainsi de suite. Ça ne s'appelle pas husnul khatima. Le husnul khatima, c'est de mourir la conscience tranquille. Tu ne dois rien. Il y a pas de, on va dire, de manquement de le droit envers ton Seigneur, c'est-à-dire les ribadas, et il n'y a pas de manquement envers les makhlouqas, les créatures d'Allah. D'accord ? Tu n'as pas fait de tort à quiconque, ainsi de suite. Je ne vais pas développer cette thématique. Vous avez juste à taper sur Google Hadith al-Muflis, tout le monde le connaît, celui qui se présente devant le tribunal d'Allah avec cumul de bonnes actions, mais il a insulté, il a humilié, il a volé, il a détourné de l'argent, il a pris illégal l'intérêt, il a fait la médisance, la calomnie, il a semé la zizanie au sein d'un couple, et ainsi de suite. Allah musta'an. Voilà, ce n'est pas tout d'être fier. Moi, il y a des gens qui le disent de façon ostentatoire et ils n'imaginent pas comment ça peut affecter les gens qui ne peuvent pas faire autant de bonnes actions. C'est que ouais, moi, tous les 5 jours, c'est un khatmul Qur'an et le soir, c'est depuis 2 heures du matin et tout. Ce sont des actions qui doivent être cachées, ça, hein, d'accord ? Donc, c'est autre chose. Mais je veux dire que ce serait une illusion de se dire que je fais plein de bonnes actions et assurément je suis accepté, agréé par Allah. Certes, si tu accomplis beaucoup de bonnes actions, mashallah, tu te donnes beaucoup plus de chances d'être agréé par Allah sans le moindre doute. Cependant, il faut faire attention à ce que tu accomplis de ce dunya, ne pas faire du tort aux gens et ainsi de suite, les choses que nous connaissons. D'accord ? Donc, demander à Allah Azza wa Jalla husnul khatima, demander à Allah Rabbul Izza pour notre dîn, justement, les qualités. Oh Allah, accorde-moi la sincérité dans tout ce que j'accomplis à Allah. Donne-moi la possibilité de développer la taqwa à travers les a'mal. Ya Rabbal Alamin, accorde-moi la dévotion, la concentration dans la prière, la présence de cœur, que je puisse ressentir le istislam, la soumission à toi. Accorde-moi l'istiqama sur chaque bonne action que j'accomplis en ce moment, ainsi de suite. Voilà, parce que quand j'entends des gens, ils se disent que oui, mais on a besoin d'un imam qui fait doua et on dit amin, parce que non, c'est pas qu'est-ce qu'il faut demander. C'est-à-dire, tu sais pas ce qui est bon pour toi alors. Tu sais pas de quoi tu as peur. Tu sais pas de quoi tu as besoin. Si vraiment tu sais, tout le monde sait de quoi il a besoin et qu'est-ce qu'il angoisse. Si vraiment tu avais une confiance en ton Seigneur et tu arrivais à parler avec Allah, mashallah, ça pourrait aller sur une heure de doua, 30, 40 minutes, voire une heure de doua, parce que là, ça sortirait du cœur. Et c'est ce qu'il faut. Rangez vos livres de doua qui sont magnifiques et tout, et demandez à Allah avec présence de cœur, en vraiment en conversant avec Allah, avec cette conviction que وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Qu'Allah est proche de celui qui l'invoque. وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ. Allah promet de répondre à l'invocation de celui qui l'implore. Et, parenthèse, les savants rappellent qu'il y a plusieurs façons d'accepter les doigts. Tous les doigts sont acceptés, mais de différentes façons. Il se peut qu'Allah t'accorde ce que tu as demandé, mais vraiment, mashallah, exactement ça. D'accord ? Imagine une personne veut un poste dans telle entreprise, ou un jeune homme veut se marier avec Fatima ou Aïcha, ou Aïcha veut se marier avec Abdurrahman, et ainsi de suite. Et il demande ce doua avec, mashallah, avec beaucoup de présence, de cœur et de sincérité. Il est possible qu'Allah te l'accorde. Donc ça, c'est une des façons de voir nos doigts acceptés. Il se peut qu'Allah ne concrétise pas ta demande. Et quand Allah ne concrétise pas notre demande, c'est soit parce que ce n'est pas le moment, ce sera ok, mais pas tout de suite, tu n'es pas prêt. Ou alors Allah t'a prédestiné quelque chose qui est mieux que ça, même si nous n'arrive pas à le comprendre. Parce qu'Allah veut toujours, Allahu latifun bi'ibadi, Allah est bienveillant envers ses créatures, il leur accorde toujours ce qui est mieux. Vous allez dire que oui, mais quand c'est une épreuve, ben l'épreuve c'est également ce qui est le meilleur pour toi. Quand Allah décide de t'envoyer une épreuve, c'est que il n'y a rien de plus adapté pour ton équilibre spirituel ou pour ta courbe de foi, de iman, que d'avoir cette épreuve, ça te permettra de décoller spirituellement. On ferme cette parenthèse. On disait donc, j'ai oublié le dernier point que je citais, khair, inshallah. Voilà un peu, enfin, il y avait un point important, khair, ça m'est sorti de l'esprit. Voilà un peu les doigts pour notre iman également que nous devons demander lors de la rupture du jeûne. Naam. N'oublions pas que le prophète alayhi salat wa salam nous a dit que le croyant se doit de tout demander à Allah, hatta shis'ana alayhi tanqata, même s'il s'agit des lacets, bon ça c'est un terme moderne, hein, mais de la corde qui lui permet d'attacher ses chaussures, si cette petite corde s'est cassée, là aussi orienter son cœur vers Allah, c'est-à-dire que le doua, c'est vraiment converser avec Allah, pour lui expliquer nos besoins, nos faiblesses, nos manquements, et ce qui nous fait peur, et ce qui nous est cher. Qu'Allah ouvre nos poitrines et nos cœurs pour qu'on puisse lui demander ce qui est important pour nous. Et que nos cœurs ne se détournent jamais d'Allah Azza wa Jal et ne s'orientent pas vers les créatures, mais que vraiment ils s'orientent vers le Créateur. Si je ne me trompe pas, c'est Omar ibn Khattab qui disait que ce qui lui importe, ce n'est pas l'acceptation des doigts, mais c'est le tawfiq. Qu'Allah te donne la possibilité de demander des doigts. Je me suis rappelé de ce que je disais. Soit Allah t'accorde concrètement ce que tu as demandé, il concrétise ta demande, soit Allah ne te le donne pas, et en échange, mais après le terme échange, c'est presque irrespectueux, Allah n'échange rien, Allah te donne quelque chose, il est généreux, il ne t'a pas donné ce que tu as demandé, mais il va te donner autre chose, ça peut être des difficultés, des balas, des choses qui auraient pu t'arriver, qu'Allah éloigne par les doigts qui ne sont pas exaucés. Ou troisième cas de figure, ce sont des montagnes de hasanat, le jour de Qiyam. C'est un hadith, il est stipulé que le croyant verra des quantités, une quantité de bonnes actions, il dira, ya Allah, ces actions-là, c'est pas moi qui les accomplis, et on lui dira que ce sont les invocations de ce dunya qui n'ont pas été exaucées. Donc on comprend que quand je lève mes mains, je fais doigt, ou même je ne les lève pas, je fais doigt de mon cœur, j'en ressors toujours gagnant. Soit Allah me l'accorde, soit Allah me protège d'une difficulté, ou alors Allah me donne rien de ce monde, mais m'accorde quantité de récompenses dans le akhira, dans l'au-delà. Qu'Allah donne la possibilité d'être concentré au moment de la rupture du jeûne pour faire les doigts. Et là, au moment de rompre le jeûne, il n'y a pas la lecture du Coran ou le dhikrullah, non. Ce qui est spécifique à la rupture du jeûne, c'est ad-du'a, les invocations. Ce qu'on doit éviter. Là, il y a une chose à éviter et un conseil, après on va clôturer. Pour le Tarawih, on gardera ça pour une autre fois, Inch'Allah. Ce qu'on doit éviter, c'est le gaspillage, bien sûr. Quand on ne pas se laisser emporter par un excès de gourmandise, c'est sûr que quand on a passé une journée sans manger, on va vite comprendre ça. On a l'impression qu'on pourra manger une montagne de nourriture et puis au moment de rompre le jeûne, on se rend compte qu'on n'a qu'un estomac. En faisant attention au gaspillage, hein, d'accord. J'avais un professeur de à Madina Munawwara qui nous disait que, il disait de façon très ironique, il disait que certaines personnes attendent le mois béni pour devenir les frères du diable. Alors, c'est étrange. En général, le mois de Ramadan, on veut entendre de belles choses, terribles. Mais là, c'est un prof qui nous cassait le moral régulièrement. C'est lui qui nous enseignait les sciences de l'héritage, Faraïd. Donc, c'est déjà une thématique très complexe. Et là, on lui posait la question, comment ça, être les frères du diable? Il dit que n'oubliez pas qu'Allah dit au Coran, « Inna al-mubadhirina kanu ikhwan al-shayatin ». Les gens qui font du gaspillage, ce sont les frères des shayatin. Il dit qu'il y a des gens qui gaspillent quantité de nourriture lors du mois de Ramadan, et ils deviennent donc les frères de shayatin. Et c'est dans le mois de Ramadan qu'on fait le plus de gaspillage. Donc, faisons attention, pas de gaspillage, parce que c'est un péché, mais grave comme péché. On ne jette pas la nourriture qu'Allah nous protège. Deuxièmement, là c'est un conseil, n'oublions pas haqqul jar, le droit du voisin. Il y a un principe de la religion, le croyant ne peut pas se permettre de cuisiner quelque chose et le fumée, la bonne odeur arrive chez le voisin et qu'il ne puisse pas manger de ce qu'on a préparé. La politesse, c'est de toujours partager avec le voisin. Faisons en sorte que le mois de Ramadan soit également donc un mois d'ikram, un mois de partage. Un moment, on se rapproche de nos voisins, de notre prochain, que la personne soit de confession musulmane ou non. Et si ce n'est pas, mashallah min ahli tawhid, c'est une occasion de da'wa, de partager un peu notre repas. Et c'est quelque chose qui touche les corps. On est dans une société, on est à une époque où les gens sont renfermés sur eux-mêmes. On nage, on baigne dans l'individualisme, Allah musta'an, c'est l'égoïsme total. Et le fait qu'il y ait ce genre de geste de fraternité, assurément, c'est un moyen de, ça peut être un moyen de guider et de hidayah. On va s'arrêter là, on était un peu long pour ce soir, on a 45 minutes. Permettez-moi de rappeler ça tout à l'heure, il ne faut pas la négliger. Si on peut l'accomplir en jama'a, c'est encore mieux. Mais bien sûr, je reste ferme sur mes positions. Si vous êtes confiné, si on est en couvre-feu, il ne faut pas aller à l'encontre des lois du pays, s'exposer, sortir de sa maison, même si c'est pour une bonne cause. Non, on garde les principes, on respecte les lois du pays. La salatu tarawih, si on a la chance de pouvoir faire derrière l'imam, sachez qu'il faut rester derrière l'imam jusqu'à la fin. Et vous savez qu'on sait tous qu'il y a des divergences entre ceux qui font 20, ceux qui font 10 unités ou 8 et ainsi de suite. Si j'ai dans ma conviction, il y a 8 rakat de tarawih, si je suis derrière un imam qui fait 20, il faut que je reste avec lui jusqu'à la fin. Parce que celui qui reste avec l'imam, hatta yansarif, jusqu'à la fin de la salle, jusqu'à ce que l'imam s'en aille, refera lahuma taqaddama min dhanbi, Allah pardonne tous ses péchés précédents, les péchés futurs, ainsi de suite, un pardon général, hadith de Bukhari et de Muslim. Si on peut se permettre encore 2 minutes, on aura pas mal de, mashallah, de jeunes huffaz qui vont officier sa tarawih avec les voisins dans les mêmes imams, ainsi de suite. Le plus important, ikhwani fillah, n'oubliez pas l'ikhlas, la sincérité. La lecture du Coran n'est pas une compétition. Il ne faut pas non plus manquer de respect au verset en adoptant une lecture qui est trop rapide. On appelle ça les TGV, Tarawih grande vitesse. Bon, c'est une vanne qui date de ça a toujours existé, cette vanne, hein, je pense. D'accord, depuis que les TGV existent, la vanne existe également, Allah musta'an. Mais il faut, c'est-à-dire, lire le Coran d'une façon où on ne distingue pas les lettres et les harakat et les mots, c'est un manque de respect envers la révélation. Donc, il faut un juste milieu. On ne va pas non plus lire en mode slow life, comme on dit, tranquille, très cool, parce que pour toi, c'est peut-être bien, mais s'il y a des gens derrière toi, c'est une difficulté, donc trouvez le juste milieu. Et ceux qui officient, n'oubliez pas que c'est pour Allah Azza wa Jal. Attention à l'ostentation, parce que il n'y a rien de plus facile pour le diable que de nous avoir par riya, l'ostentation. Et surtout quand il s'agit de lecture de Coran, où on s'expose, là on est très 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 exposé justement à la tentation de rechercher le contentement des gens. Faisons très attention. C'est vraiment le shirk khafi, c'est le petit shirk, c'est l'ostentation qu'Allah nous protège. Et pareil, si c'est dans une mosquée, voilà, je ne sais pas si on aura l'occasion qu'Allah ouvre les portes pour que dans la deuxième semaine de Ramadan, ici déjà à La Réunion, on a un couvre-feu qui revient à 22h pour qu'on puisse prier Tarawih, sachant que la salat al-Isha commence à 19h20. Donc c'est amplement possible qu'Allah facilite et qu'en métropole vous soyez également délivré de ce confinement. Celui qui prie derrière l'imam, ce qu'il faut vraiment éviter, ce sont les éloges. Quand si l'imam a été performant, il n'a pas fait de faute, il faut pas aller le voir dire que ta lecture était parfaite aujourd'hui, c'était excellent et tout et tout. Il faut faire attention. Déjà, le faire des éloges en présence de la personne, c'est contraire à la sunna, et il faut se protéger les autres de l'ostentation. Donc la salat au tarawih, c'est une action qui est remplie de bénédictions, de vertus. C'est un sacrifice, hein, c'est long, c'est beaucoup de lectures. On le fait également pour Allah, ça fait partie des grandes actions du mois de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jal donne la possibilité de les accomplir. Il y avait d'autres actions, mais on aura l'occasion d'en parler. C'est la lecture du Coran et l'aumône. C'était les deux derniers points. Qu'Allah facilite et nous permette à tous de démarrer ce mois de Ramadan avec le maximum de concentration dès les premiers instants de dévotion, et que ce soit vraiment un Ramadan productif et qui nous permet d'atteindre la taqwa. Man tawfiqi illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khairan.